Georges Macboiret, bonjour.
Bonjour.
Donc heureux de vous retrouver cette année encore pour nous parler donc de Sophie Grain. L'année dernière, mais c'était une première pour nous que de vous accueillir pour une édition donc qui était celle de 2008. Peut-être qu'on peut faire le bilan d'ailleurs de 2008.
Ben oui, le bilan est assez positif puisque nous avons accueilli plus de 17 000 spectateurs fauteuils, comme on dit. Mm-hmm. Donc c'est quand même une belle réussite du point de vue du public, puisque vous savez que c'est une manifestation que nous avons volontairement ouverte au public en ayant le souci de faire se rencontrer les professionnels et le grand public. Donc c'était une belle réussite. Plus de 250 professionnels présents. Et bien sûr, tout le programme qui avait été annoncé a été réalisé, ce qui est quand même une belle chose.
Donc on va rappeler que le FIGRA, c'est un festival international, oui, du film de grand reportage, on va dire.
Documentaire.
Et donc, effectivement, c'est l'occasion de rassembler des professionnels et des gens curieux de documentaires qui ne sont pas courants dans les salles de cinéma. Et à la télévision, on commence à en voir sur certaines chaînes, mais bon, ce n'est pas encore trop banalisé.
Ben, ce n'est pas banalisé, mais c'est quand même encore des films qui viennent de la télévision. La particularité cette année, c'est qu'on va avoir ce fameux prix que nous voulions depuis longtemps autour, mm-hmm, de Troman Vu, qui va justement emmener des films de télévision vers le cinéma. Oui, donc on a quand même encore. Mais c'est vrai que ce sont des films qui sont faits souvent pour la télévision, qui passent pour la plupart d'entre eux, 70% des films sont programmés à la télévision, mm-hmm, dans des heures tardives, malheureusement. Mm-hmm. C'est souvent le drame de ces films. Et donc on retrouve des films chez nous avec une deuxième vie, en quelque sorte. Quoi. Mm-hmm. Et puis alors en plus magnifié parce que le grand écran change un peu la donne.
Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des chaînes comme Arte TV, etc., qui permettent justement de voir ces films dans la journée, enfin quand on veut.
C'est vrai, non. Mais en même temps, ces chaînes du service public sont celles qui font le plus de grands reportages et documentaires de société. Mm-hmm. Ce sont celles qui en produisent beaucoup. Là, pour ne citer que France 5, qui en a quelques-uns sur chez nous, en fabrique, je crois, 250 par an. Mm-hmm. Donc c'est quand même énorme.
Donc on peut dire que le service public remplit ses missions dans ce domaine.
Les services publics remplissent ses missions dans ce domaine.
Pourvu que ça dure. Hein.
Ah ben on va espérer, mm-hmm, parce qu'avec le nouveau système de la publicité disparu des écrans du service public, devrait normalement ouvrir cette tranche mm-hmm, d'une manière plus
bon,
forte.
Donc ça, c'est
plus forte, avec une implication plus grande du service public dans le domaine financier, mm-hmm, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est surtout cet aspect-là qui est difficile à assumer pour les producteurs, c'est l'aspect financier. Souvent, mm-hmm, les idées, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de beaux sujets, mais qui malheureusement ne voient pas tous le jour. Mm-hmm. Et c'est vrai aussi, c'est la raison aussi qui nous a amené aussi à créer cette section coup de pouce auprès des jeunes réalisateurs, pour leur donner justement la possibilité de réaliser leur rêve de devenir des réalisateurs.
Mmh. Et si on compare la situation française, par exemple la production des télévisions publiques françaises avec par exemple, la BBC qui est quand même un modèle parfois signalé, est-ce qu'on voit un écart considérable ou est-ce que ça se rapproche ?
Non, l'écart n'est pas si considérable que ça. C'est la production française est vraiment d'une grande qualité, mmh, et très riche quand même. Il y a énormément de choses. Je pense que c'est une question après de programmation. C'est vrai que, mmh, c'est les horaires qui ne sont pas forcément toujours les mieux adaptés pour tous les publics. Tout le monde ne vit pas la nuit, quoi. Voilà, c'est ça la problématique.
C'est ça. Alors c'est vrai qu'avec Internet qui permet maintenant de pouvoir pendant une période déterminée de revoir ces reportages à des moments où l'on est libre, etc. Mais ça apporte vraiment quelque chose. Je crois qu'on est sur une nouvelle ère.
Absolument, on est sur une nouvelle ère. Je crois que il faut en tenir compte et le prendre en considération parce qu'effectivement, peut-être que à l'avenir, les téléspectateurs seront leurs propres programmateurs. C'est ça peut-être l'avenir de ce type de sujet. Hein. C'est-à-dire, on en aura entendu parler comme on entend parler d'un film, et on ira ou le louer, alors là, pour l'instant, on en loue ou on en pirate, ce qui n'est pas une très belle chose, mm-hmm, qu'il faut quand même rappeler à chaque fois, et à vos auditeurs aussi. Mais sinon, le téléchargement, l'achat en VOD, tous ces procédés vont, à mon avis, se développer et exister de plus en plus, et permettre justement, peut-être, des découvertes de sujets, pour en avoir entendu parler, et de trouver effectivement, après, à devenir son propre programmateur, c'est peut-être une chance.
Alors, les spectateurs programmateurs, mais aussi de plus en plus les spectateurs, j'allais dire producteurs, quelque part, parce qu'on envoie des films sur vidéo, sur Dailymotion ou YouTube ou d'autres.
C'est même, je dirais, que pratiquement le fonds de commerce de ces chaînes Internet.
Parce que les autres ne sont pas distribuables dans la mesure où il y a des droits dessus, normalement.
Normalement, non, ils ne sont pas non seulement distribuables, mais on n'a pas le droit de les prendre. comprendre. Mais c'est vrai que c'est des nouveaux médias. Alors on trouve de tout, évidemment, du bon comme du mauvais. Mmh. Il faut toujours être prudent. Ce que la particularité d'un festival comme le nôtre, c'est que de présenter ces sujets-là ont quand même une certaine estampille de vérification de ce qui est mis dedans, quand même.
Bref, c'est un travail de journaliste.
Voilà, on va dire ça comme ça, mais pas que. Les documentaristes font aussi ce travail de sérieux pour justement amener une information la plus large possible et la plus vérifiée possible, surtout.
Mmh. Alors, c'est vrai que ça n'empêche pas les points de vue et la subjectivité.
Ah ben, moi, je suis alors un fervent défenseur de la subjectivité, puisque l'objectivité, dans le domaine de l'image, elle n'existe pas. À partir du moment où vous filmez quelque chose, c'est forcément déjà subjectif, puisque c'est pas le même. Selon l'angle que vous choisissez, selon le cadre que vous prenez, vous êtes déjà dans la subjectivité. Donc, ce qu'il faut après, c'est accepter que cette image qui est montrée soit montrée comme étant une vérité par la personne qui porte cette vérité.
C'est peut-être aussi, il serait important aussi de la contredire par d'autres propositions.
Absolument.
Dire la diversité par rapport à un même sujet, confronter des points de vue, des angles de vision.
D'ailleurs, un sujet bien fait et un film correctement fait utilisent ces deux méthodes, mmh. c'est-à-dire la vérification de quelque chose de vu. Tout ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité, parce qu'effectivement, elle peut être contredite par d'autres moyens. Mais en tous les cas, celui qui porte cette image-là dans une construction autour dans un film construit, normalement, amène un point de vue, bien sûr, par le fait qu'il est sur le terrain lui-même en train de filmer les choses et d'interviewer et d'interroger les personnages et les témoins qu'il a choisi de mettre à l'image. Et à partir de là, effectivement, il construit un sujet qui, entre guillemets, peut représenter la vérité, mais cette vérité peut aussi être contestée. Mmh. C'est vrai.
Alors, ce FIGRAS est un événement international, puisqu'il réunit des producteurs, des journalistes, des équipes, on va dire.
Oui, des réalisateurs.
Des réalisateurs du monde entier. Est-ce que ça a un impact un petit peu comme aurait comme impact un festival comme le festival de Cannes pour le long métrage?
Alors c'est très gentil de nous mettre sur cette référence là, qui est une référence qui en plus pour moi correspond à une vraie le must du must, pas que pour moi d'ailleurs, mais sans cette référence là en tous les cas, ce que l'on veut montrer, c'est une spécialisation sur le documentaire dans sa généralité d'une part, mais aussi dans sa spécificité, c'est-à-dire la spécificité de notre traitement et celui de l'enquête, de la journalistique, du monde, montrer la société telle qu'elle évolue, s'interroger sur les questions qui ont d'actualité, se poser des questions sur la manière dont vivent les gens dans le monde, essayer de parcourir le monde à travers les images qui nous sont ramenées et tenter d'avoir toujours essayer tout au moins de trouver des originalités dans les sujets qui sont proposés, de manière à sortir un petit peu des sentiers battus d'une part, et peut-être quelque part aiguiser le regard citoyen de chacun d'entre nous, parce que c'est vrai qu'on peut toujours se laisser aller. J'ai souvent tendance à dire que s'informer, c'est un effort. On ne peut pas s'informer sans faire cet effort-là. Et à partir de cette notion-là, on peut peut-être arriver à trouver, à mieux comprendre en tous les cas le monde et les autres, et peut-être en même temps peut-être mieux se comprendre si on veut aborder cette fameuse mondialisation dont tout le monde nous reparle et nous rebat les oreilles. Il faut peut-être mieux connaître comment les autres vivent, et ça, on doit reconnaître aussi que sur les 260 films que nous avons reçus, qui viennent donc dont 16 pays étrangers plus bien sûr la France, on peut dire qu'il y a une couverture du monde, certes, mais pas aussi importante que ce qu'elle avait pu être il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On ne couvre plus le monde de la même façon. Donc ça veut dire en fait que la couverture du monde ne dépend pas forcément de son actualité. Mmh. Et donc ce sont souvent à travers des histoires que le réalisateur ou le journaliste a envie de rapporter, souvent des témoignages qu'il faut entendre, et souvent des situations que l'on n'a plus l'habitude de voir ou dont on a entendu parler mais dont on ne se rappelle plus. C'est un petit peu ce schéma-là qui est actuellement. Et donc ça correspond effectivement à une manière de travailler de documentaire qui demande beaucoup d'écriture, beaucoup de construction, avant même de tourner les premières images. Mm-hmm. Donc on est dans un tout autre domaine maintenant, ce qui fait que, donc, bien sûr, il y a des pans entiers du monde qui ne sont pas couverts.
Mm-hmm. Et d'autres qu'on commence à découvrir. Par exemple, lors de votre conférence de presse, vous avez présenté un documentaire qui a été réalisé en Chine par une équipe française qui a son bureau à Pékin.
Oui, donc qui est lilloise en plus.
Voilà, qui est lilloise. Donc maintenant, des professionnels français peuvent travailler à Pékin d'une manière relativement libre pour présenter des sujets qui sont quand même pointus.
Alors, je dirais d'une manière, ils le disent eux-mêmes, hein, d'une manière libre, c'est vrai. En tous les cas, ils ne sont pas provocateurs, voilà. Ils ne font pas de la provocation inutile. Mm-hmm. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement continuer à pouvoir travailler en Chine et amener progressivement à toucher à des informations auxquelles on pensait ne pas pouvoir avoir accès. Mm-hmm. Et donc, cette équipe-là, effectivement, fait un gros boulot en Asie d'Est.
Ils sont assez bien acceptés d'ailleurs par Pékin.
Et ils sont bien acceptés. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure. Mmh. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas encore peut-être touché à un point extrêmement sensible.
Là, ils étaient quand même sur les manifs en Chine.
Hein. Oui, mais rappelez-vous qu'ils étaient dans des manifs en Chine, certes, mais vous savez qu'il y a ce fameux pouvoir central et le fameux pouvoir local. Mmh. Et dans les films dont on a vu, ce n'était pas le pouvoir central qui était mis en cause.
Ouais,
c'était le pouvoir particulier du local. Donc ouais. Ça permet peut-être au pouvoir central de toujours veiller, on laisse travailler les journalistes.
Vrai,
vous voyez ce que je veux dire, cette petite notion
c'est
leur permet une pirouette. Quoi.
Et en même temps, ça peut servir au pouvoir central pour réguler aussi ce qui
absolument,
se passe en local.
Absolument,
c'est évident,
absolument.
On est toujours quelque part absolument. L'enjeu d'autres.
Bien, oui, c'est ça le drame. Mais bon, je crois qu'ils sont assez vigilants à ces propos-là. Et d'ailleurs, dans la programmation de cette année, nous avons un film qui nous vient de chez eux aussi, qui est un film qui s'appelle Travailler à en mourir, et où on voit les conditions de travail de certains ouvriers chinois qui font peur, quoi, hein, qui font peur, vu quand on sait ce qu'on fait, l'Europe leur fait faire, quoi, hein, à ces travailleurs chinois. Donc, là, ça rappelle des choses, c'est un peu ça, c'est un festival d'éveil, hein, c'est un festival qui secoue un petit peu, qui va chercher des films, pas forcément révolutionnaires, mais qui, en tous les cas, interrogent, posent des questions, font réfléchir de manière à ce qu'on reste pas à attendre que les choses nous arrivent sur le coin de la figure et qu'après on se dise, ah ben on savait pas.
Donc je suppose que ça doit faire le bonheur des journalistes étudiants, quoi.
Ah ben écoutez, là cette année ça doit leur faire le bonheur puisqu'on a réussi à passer un vous me tendez une perche magnifique parce qu'on a réussi à demander à l'ESJ de déplacer une petite formation de 14 étudiants de l'ESJ qui vont couvrir le festival pendant tout le temps du festival, créer un 8 pages chaque jour et au final de ce séjour sur le festival, ils auront une sorte de best-of de leur travail dans une publication régionale hebdomadaire, ce qui fait que leur travail sera non seulement mis à l'honneur, mais en même temps, ils pourront peut-être prouver à beaucoup de journalistes que le festival contient suffisamment d'angles et d'axes de travail pour qu'ils puissent venir le couvrir un petit peu plus qu'ils ne le couvrent. Mais on est assez contents cette année de leur couverture quand même.
Et en même temps, vous savez que Radio Campus est en train de travailler sur son université radiophonique. Peut-être que certains de leurs reportages en son pourront être diffusés sur notre
absolument, antenne. Et on va essayer de le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver.
Mm-hmm. Voilà, donc on n'a pas encore dit que ça se passait au Touquet, au Palais de l'Europe.
Hein, du 25 au 29.
Voilà.
Et pour un prix modique, disons-le toujours, 15 € pour le... Vous achetez une place à 15 € et vous pouvez passer le festival entier sur le Touquet. C'est quand même extraordinaire. Deux places de cinéma pour voir plus de 100 films, assister à des conférences, rencontrer des professionnels du journalisme et du documentaire. C'est assez exceptionnel pour
c'est
le cinéma.
C'est moins cher que la chambre d'hôtel au Touquet.
C'est un peu moins cher, mais encore qu'on a des prix quand même.
Ah, très bien. Bon, donc on se renseigne auprès de votre bureau.
Voilà, ou à l'office du tourisme.
Du Touquet.
Du Touquet,
d'accord.
Oui.
Donc cette année, donc, on a dit. Quels sont les pays qui sont, j'allais dire, tendances par rapport. Vous me disiez que ça change sur des grandes périodes.
Alors des couvertures, vous voulez dire. Parce que les pays eux-mêmes, je vous dis, on n'a pas encore suffisamment de pays étrangers qui participent à la compétition et à la sélection générale. Mais les tendances, on va avoir un petit peu de. Beaucoup d'Europe. Mm-hmm. On va avoir pas mal d'Afrique, contrairement à d'autres époques où l'Afrique était un peu abandonnée. Un petit peu d'Amérique latine et quasiment deux films quasiment sur la Russie.
Mmh. La perspective l'île 3000 Europe XXL, ça se ressent un peu sur non pas enfin, vraiment.
Pas, moi j'ai pas je fais pour l'instant
peut-être par la suite alors.
Mais peut-être c'est peut-être un peu loin là-bas quand même non
pour. Ouais mais bon il suffit quelques années peut-être ça fera effet.
Ah hein. j'espère en tous les cas.
Si effectivement on profite de l'engouement pour les fédérer pour l'an prochain pourquoi pas.
Bien sûr au contraire mais il faudrait justement que l'on prenne peut-être contact avec des gens de d'ici aussi pour arriver à voir si ce qu'on fait peut rentrer dans le programme, c'est pourquoi pas.
Mm-hmm. Voilà, donc plus de 100 documentaires de société et des grands reportages d'actualité. Alors, il y a 30 films inédits.
C'est ça.
Donc, ces films inédits, après, ils sont destinés à une carrière, à un développement.
Ils sont inédits aussi parce que nous avons quelques étrangers, films étrangers qui ont été sélectionnés. Donc, ça devient des inédits pour les Français. Mm-hmm. Et ceux qui n'ont pas été encore, qui le sont pour nous, donc qui sont des avant-premières, c'est parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur guide diffusion. Mais ils vont être souvent diffusés. La plupart du temps, les films cette année seront diffusés à la télévision.
Mm. Est-ce qu'il y a des diffuseurs qui sont à l'affût de votre festival?
Eh bien, écoutez, on a des demandes qui nous viennent de chaînes de télévision et qui vont venir sur le festival. Je pense que l'intérêt du festival, qui n'est pas un marché, permet quand même des rencontres. Et on sort du carcan, on sort du carcan du stand, de tout ce qu'il faut faire dans un marché pour pouvoir rencontrer des gens. Je pense que ça les intéresse aussi, à un moment donné, de retrouver pas mal de réalisateurs avec lesquels ils ont déjà travaillé, ou affiner un projet sur lequel ils sont en train de travailler, ou éventuellement rencontrer quelqu'un dont ils savent qu'il va être là, par exemple.
Donc du 25 au 29 mars, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des temps forts ?
Oui, nous avons prévu de faire plusieurs temps forts en soirée, avec la chaîne Planète qui nous amène en ouverture une avant-première. On a la RTBF, qui est une chaîne francophone qui se trouve pas très loin de chez vous, et qui vient faire aussi de présenter une émission qui s'appelle Question à la Une, qu'on trouve sur la chaîne RTBF, et en même temps nous apporter une très belle avant-première sur le festival qui s'appelle la fureur de vivre, et qui est sur l'histoire de ce fasciste belge qui a été pendant de nombreuses années de guerre sévi en Belgique, et qui a ensuite fini sa vie tranquillement en Espagne. Nous aurons également, avec la Suisse romande, la télévision suisse, nous aurons une avant-première également qui portera sur le Kivu, hein, je vous disais ces fameuses régions du monde qui sont couvertes. Le Kivu, c'est le nord de la République démocratique du Congo qui est toujours en conflit, et le film vraiment sera tout frais puisqu'il arrivera 2 jours avant et sera terminé à ce moment-là. Nous avons ce point de vue sur la TSR qui fête ses 40 ans avec un magazine Temps Présent, pas la télévision, enfin pas ses 40 ans, mais Temps Présent, un film fête ses 40 ans, et ils ont souhaité le faire chez nous, et donc le fondateur, qui est Claude Toracenta, sera présent, avec bien sûr d'autres membres de l'équipe de la télévision suisse. C'est assez important à souligner, parce que c'est l'un des plus anciens magazines d'Europe, le Temps Présent, et on peut toujours s'interroger comment un magazine aussi ancien peut encore exister à la télévision, et si cela existe, quel est le mystère pour lequel, comment il a fait pour résister, parce que beaucoup de magazines, malheureusement, ont quitté les écrans depuis très longtemps, hein. Je ne pense pas à nos très anciens magazines comme 5 colonnes à la Une, mais je pense à des magazines encore plus très récents au niveau de l'info, parce que il reste plus chez nous que Envoyé Spécial, et qui est encore qui est quand même le plus ancien, et bien sûr l'émission de Georges Pernoud, Thalassa, qui est une des plus anciennes émissions de la télévision, mais qui était un peu spécialisée, et qui m'a quand même ce rôle un petit peu de couverture du monde. Et donc on va avoir ce grand point, bien sûr, et la soirée de clôture, pour laquelle nous aurons deux avant-premières, une sur de Thalassa, justement, qui nous viendra nous raconter la mort d'un peuple, le peuple des Tchouches, dans le nord, du côté de l'Alaska, cette presqu'île d'Ouélène, où ce peuple est en train de mourir tranquillement, doucement, péniblement, même parce que l'alcool les aura réduits à rien. Ils sont en train de se mourir, suicidés, etc. Donc Frédéric Tonoli, qui a été celui qui avait fait la superbe film Les Enfants de la Baleine, fait depuis 15 ans des voyages réguliers là-bas. Son avant-dernier, Les Enfants de la Baleine, avait passé 14 mois là-bas. Et là, il raconte l'histoire de ce peuple sur ces 15 ans-là. Donc, vous voyez, il a repris ses anciens films, et il en a fait un film qui passera sur Thalassa dans le courant du mois de mai. Et Thalassa nous fait le plaisir de nous apporter cette avant-première. Donc, on clôturera le festival avec ses 5 jurys, parce que cette année, vous avez remarqué qu'on a augmenté notre nombre de jurys. On a la compétition internationale avec Yamina Benguigui, qui est la présidente. On a le prix Autrement Vu des cinémas Nord-Pas-de-Calais, ce qui est une originalité. Comme je vous le disais, on amène le grand documentaire et le grand reportage au cinéma avec un prix Autrement Vu. Et puis, nous aurons aussi, dans cette sélection officielle, Terre d'Histoire, parce que c'est important de s'interroger sur ce que nous vivons aujourd'hui, mais aussi en se reportant au passé, on arrive à comprendre des fois beaucoup de choses de ce que nous vivons. Et Terre d'Histoire est un petit peu ce reflet-là, avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est un partenaire du festival, pour cette section-là, autour de 9 films, dont 3 films étrangers, d'ailleurs, avec de très beaux projets, de très belles histoires qui rappellent beaucoup de choses du passé et qui nous permettent de mieux voir ce qui nous arrive aujourd'hui, comme je le disais tout de suite. Et puis, bien sûr, toutes les autres sections, l'exposition photo, qui touche sur les réfugiés climatiques, hein, c'est d'actualité. Non, c'est un programme très riche, très dense, et donc cette clôture arrivera avec ces 5 jurys, le jury jeune, hein, qui est un jury de la région Nord-Pas-de-Calais avec des lycéens et des apprentis et qui attribueront leur prix comme ils le font chaque année.
Alors un événement cette année qui va suivre donc ce festival, c'est la venue du FIGRA ici à Villeneuve-d'Ascq, à la Cité Scientifique, à l'Espace Culture.
C'est ça, on va donc projeter 2 films. Un film qui sera, alors je ne sais plus si c'est Colère de Chine ou si c'est un autre qu'on a choisi, là je ne l'ai plus en tête, mais en tous les cas il y en a un qui sera là, et puis le film primé de l'année qui aura été primé au Festival 2009.
Voilà, ça ce sera le 2 avril, un jeudi à partir de 16h30,
c'est ça,
hein,
c'est ça.
D'accord,
c'est ça.
Donc on sera très heureux de vous accueillir à ce moment-là, on en a fait la jonction on va dire. Hein.
C'est très bien.
Et donc l'histoire, en fait c'est justement l'opportunité pour tous les étudiants, hein, qu'ils soient en histoire, en géographie, en politique, sciences politiques ou même en développement durable, on va dire. On est sur des sujets qui sont puissants.
Absolument. Je pense que les sujets que nous présentons sont vraiment une telle palette de d'interrogations sur le monde que ça peut intéresser vraiment toutes les matières.
On va peut-être donner un site internet où on peut retrouver dans le détail et puis peut-être mieux faire connaissance avec les auteurs des films et puis avoir peut-être leurs contacts si jamais.
Simple comme tout, www.figra.fr.
Bien, Georges-Marc Boiret, merci. Et puis bon FIGRA, c'est le 25, ça finit le 29 et vous êtes dans nos murs, on va dire, le 2 avril.
Absolument, merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci.